Mesdames, téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de Mag Emploi, votre émission dédiée exclusivement à l'emploi au Mali. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la formation professionnelle des salariés en entreprise. À cet effet, nous serons avec Monsieur Sekou Amadou Ali Touré. Bonjour, Monsieur Touré.
Bonjour, madame.
J'espère que vous allez bien.
Très bien.
Bienvenue sur le plateau de Mag Emploi.
Merci beaucoup.
D'accord. Donc, Monsieur Sekou Amadou Ali Touré est gestionnaire des ressources humaines confirmé et chargé des cours des GRH pour les classes de master dans deux universités privées. Il a commencé sa carrière en tant que contractuel de l'État dans le domaine de l'enseignement fondamental en qualité de maître de second cycle, chargé de cours de lettres et d'histoire géo. Après cette riche expérience qui lui permit de guider plusieurs adolescents dans le choix des études, pour leur permettre d'embrasser une carrière professionnelle, il s'est reconverti vers d'autres métiers du secteur privé après des diplômes obtenus en cours du soir dans le domaine du droit et du marketing. Il a été directeur des ressources humaines et de la qualité pour le compte de la Société des eaux minérales du Mali, SEMM. Aujourd'hui, il est expert en insertion professionnelle des jeunes maliens au compte de l'ONG internationale italienne WeWorld. C'est bien ça?
C'est très bien.
D'accord. Donc, Monsieur Touré, comme je l'annonçais tantôt, aujourd'hui avec vous, nous allons parler de la formation professionnelle des salariés.
Très bien.
Donc, pour vous, c'est quoi la formation professionnelle des salariés?
Donc, la formation professionnelle, d'abord, merci pour cette invitation. Je suis toujours disponible de venir sur votre plateau pour échanger sur des thématiques en rapport avec les ressources humaines.
Oui.
Donc, la formation professionnelle, c'est l'ensemble des connaissances et des compétences donc à faire acquérir aux employés, que ce soit au début de leur fonction ou tout au long de leur fonction, et qui va porter essentiellement sur les hard skills, les soft skills et les compétences transversales.
D'accord. Mais pourquoi est-ce que certaines structures prennent l'initiative de former les salariés?
Les structures prennent l'initiative parce que ces structures-là ont compris que l'humain est la première ressource de l'entreprise, ce qu'on appelle le capital humain.
Mm-hmm.
Donc, tu dois entretenir ta première ressource. Donc, former, prendre l'initiative de former ta ressource humaine, c'est se projeter déjà à être compétitif, à être également à la pointe donc, du marché, être compétitif sur le marché, être à la pointe, être se positionner vis-à-vis également de la concurrence.
D'accord. Mais quels sont les différents types de formations professionnelles qu'on a?
Bon, les différents types de formations professionnelles, c'est d'abord la formation initiale.
Mm-hmm.
Donc, parce que quand l'employé est recruté, il faut le former.
D'accord.
Ensuite, il y a des formations continues.
Mm-hmm.
Il y a des formations occasionnelles. Donc, il y a plusieurs type de formation, et aujourd'hui avec les nouvelles technologies,
mm-hmm.
on a la formation qu'on appelle la formation e-learning qui peut être à l'intérieur donc, de l'entreprise, ou que l'entreprise peut négocier avec une structure extérieure
mm-hmm.
que les employés donc, vont suivre.
D'accord.
Parce qu'aujourd'hui les gens n'ont pas souvent le temps
de suivre
des formations en présentiel.
D'accord, ok. Mais est-ce que la formation professionnelle des salariés, est-ce que cela est géré directement par le premier responsable de l'entreprise ou même par le département des ressources humaines?
Donc la formation professionnelle, comme on l'avait dit, elle concerne le capital humain.
Mm-hmm.
Et ça dépend des structures. Donc d'abord, la prise en charge, c'est les ressources humaines, c'est le département ou la direction des ressources humaines. Il y a une implication du directeur général.
Oui.
Et comme je l'ai dit, dans les structures les mieux organisées, le plan de formation est même soumis mm-hmm. à l'approbation, à l'appréciation et à l'approbation du conseil d'administration.
Mm-hmm.
Donc pour te dire combien c'est important, surtout pour les entreprises qui ont compris que donc la première richesse, c'est vraiment le capital humain.
D'accord. Mais est-ce que c'est une obligation pour l'employeur de former ses salariés?
Donc, j'ai fouillé un peu partout. Bon, moi, j'ai trouvé un décret que je vais vous partager après. Donc, c'est un décret quand même qui parle des différents types de formation. C'est un décret d'application du Code du travail. Donc, dès qu'il y a un décret d'application, ça veut dire que c'est comme une obligation aux entreprises. Mais l'entreprise, même si ce n'est pas une obligation de la part de l'État,
mm-hmm.
elle est elle-même obligée, si elle veut être compétitive et si elle veut s'aligner sur le marché de l'emploi, elle est obligée de former donc, ses employés.
Ok. Mais en général, les formations organisées par l'entreprise sont-elles personnelles ou collectives?
Bon, ça dépend. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez votre responsable informatique.
Mm-hmm.
Donc, il y a des nouvelles technologies. Ce n'est pas la peine de former tout le monde.
Mm-hmm.
Vous pouvez initier une action de formation à son avantage. Mais lorsque vous changez tout un système d'information par exemple, vous partez, vous quittez un système vers un autre système, là, vous êtes obligé de former, de faire une formation collective, de former tout le personnel qui utilise donc ce système d'information.
D'accord. Quels sont les avantages de la formation pour les salariés et pour l'entreprise?
Pour l'entreprise, d'abord, comme je l'ai dit, pour rester compétitif. Mmh. C'est extrêmement important. Et s'aligner également sur le marché international. Mmh. Et aujourd'hui, les entreprises forment, parce que si tu ne formes pas, tu ne peux pas avancer. Okay. Maintenant, pour l'employé, il permet à l'employé de faire correctement son travail. Ensuite, il lui permet également d'occuper des postes supérieurs s'il y a des postes de promotion et tout ça. Mmh. Donc, ça permet à l'employé également de se préparer. Et ça permet à l'employé également, comme on le dit, d'être compétitif au-delà de cette entreprise, peut-être d'être compétitif même sur le marché de l'emploi.
Ok. Mais c'est vrai aussi qu'il y a certaines structures aussi qui hésitent un peu à former leurs employés parce que c'est juste que dès que l'employé a la formation, l'employé peut utiliser ses... Pour aller vers la concurrence.
Mais non, il y a des clauses.
Ok.
Il y a des clauses.
Les formations sont toujours accompagnées des clauses.
Il y a des entreprises qui accompagnent des formations avec des clauses.
Okay.
Il y a des clauses de fidélité.
Donc.
C'est-à-dire que moi, je suis prêt à te former, mais à condition que tu restes 2 ans ou 3 ans chez moi.
D'accord.
Et généralement, les employés ils signent cette clause-là. Mais comme tu l'as dit, en fait, cette clause, elle ne vaut que pour 2 ans, pour 3 ans. Mais après, dans tous les cas, ça permet à l'employé, comme je te dis, la formation, ça permet à l'employé de se positionner sur le marché de l'emploi.
D'accord. Mais à quelle période les plannings de formation sont établis?
Les plannings de formation, ça varie, mais généralement, c'est décembre.
À partir du
mois de décembre, on établit, on convoque, on interroge les directeurs de département et tout ça sur l'ensemble des besoins. Mmh. Comme je te dis, ça dépend parce qu'il y a des entreprises qui montent leur planning de formation ou qui essaient d'établir leur planning de formation à partir des évaluations annuelles essaye quand même de voir les besoins de formation et essayer de mettre en même temps le planning de formation en marche.
Ok. Comment est-ce qu'on met en place un plan de formation efficace pour une entreprise?
Un plan de formation, c'est un outil extrêmement important pour l'entreprise.
Mmh.
Comme je l'ai dit, dans d'autres entreprises, le plan de formation est soumis à l'approbation et à la validation du conseil d'administration.
Oui.
Donc, parce qu'il doit avoir le budget, ça c'est extrêmement important. Quel est le montant? Maintenant, ça varie entre les entreprises. Il y a des entreprises qui consacrent 3% de la masse salariale annuelle pour la formation. Il y a d'autres 2%. Il y a d'autres qui vont jusqu'à 5% de la masse salariale.
Mmh.
Donc, le budget, il est extrêmement important. Ensuite, les thématiques.
Oui.
On va former sur quoi cette année? Et ensuite, la cible. Qui sont les employés qui vont être concernés? Et après, on essaie de voir, est-ce que ce sont des formations uniquement qui vont être données par des formateurs internes de l'entreprise,
mmh.
ou ça va nécessiter l'intervention des cabinets de formation? Si ça nécessite l'intervention des cabinets de formation, là aussi, il faut répertorier les meilleurs cabinets
mmh.
ou les meilleurs formateurs internationaux
mmh.
et donc qui vont interagir. Par exemple, sur la thématique de la formation, on essaie de voir que sur le plan national, on n'a pas de compétences pour former sur ça. On est obligé d'aller voir à l'extérieur, négocier avec de gros cabinets pour pouvoir venir donner la formation. Donc, un plan, il comprend le budget,
mm-hmm.
il comprend les thématiques, il comprend également le personnel cible.
Ceci.
Et ensuite, le planning, comment est-ce que ce sera en janvier, cette formation va être faite en janvier, en février, en mars, ainsi de suite. Donc, ce planning là, peut être établi sur tout le long de l'année.
Ok, d'accord. Maintenant, quels sont les dispositifs qui permettent aux salariés de se former en entreprise?
Bon, les dispositifs, il y a des, comme je le dis, il y a ce qu'on appelle souvent la formation entre collègues.
Mm-hmm.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des, à la pause par exemple, beaucoup de gens donc interagissent. Il y a également des systèmes de rotation que certaines entreprises utilisent.
Okay.
C'est-à-dire que celui-là, tu es habitué à faire ça, on te dit bon, désormais tu fais le travail de celui-là. Donc ça te permet également,
d'apprendre.
Il y a un système de e-learning. Que certaines entreprises internes donc qu'on met, et souvent même on permet souvent à certains employés de se connecter sur certains sites
mm-hmm.
pour permettre aux employés donc de faire des mises à jour. Parce qu'au niveau du département informatique, on bloque tous les accès et certaines entreprises quand même permettent souvent d'avoir accès à certains sites pour permettre aux employés donc de se former.
Ok, mais est-ce que dans le cas où, par exemple, l'employé décide de se former personnellement, mm-hmm. peut-être en dehors de l'entreprise, mm-hmm. est-ce que l'employé a la possibilité de négocier, par exemple, une mise en disponibilité ou bien, je ne sais pas, un truc comme ça?
Moi, il y a toujours, par exemple, dans le cadre de la formation, dès que l'entreprise, dès que l'employé, mm-hmm. peut, l'employé, dès qu'il veut faire une formation,
oui.
il peut avoir la participation de l'entreprise.
Oui.
Dans le cas, quand il y avait le FAFPA, c'était des dispositifs qui étaient là, qui étaient financés parce qu'il y avait des cotisations qui étaient versées par l'employeur.
Oui.
C'est possible. Par exemple, il y a les banques également qui suivent des formations au niveau de l'ANPE. Mm-hmm. C'est des autorisations. Mm-hmm. Donc, on sait que l'employé, il quitte le bureau à telle heure parce qu'il doit suivre donc, une formation.
Okay.
Ça, quand même, c'est vraiment réglementé.
Oui.
Et l'employé, en ce temps-là, a droit également, donc l'employeur a droit de regard aux résultats et de contrôler même donc, le temps d'absence. Est-ce qu'il est régulier au cours de cette formation? Parce que délibérément, je lui donne le temps donc, d'aller se former.
Okay.
Pendant les examens, on lui donne des congés spécifiques qui ne sont pas des congés annuels pour lui permettre de faire son examen tout le long de la période d'examen. L'employé n'est pas obligé donc, de venir.
Donc, okay, ça, c'est à discuter vraiment avec son employeur.
Avec son employeur. Et il y a cette flexibilité, il y a cette pratique vraiment qui se passe donc, de façon courante.
Ok, d'accord. Mais comment est-ce qu'on peut évaluer vraiment l'efficacité d'un programme de formation d'entreprise?
Bon, un programme de formation, il y a trois niveaux d'évaluation. Il y a l'évaluation à chaud.
Okay.
Et dès qu'on finit la formation, on fait une évaluation. D'abord, avant, est-ce que les besoins exprimés sont réellement pris en compte? Par les besoins de formation exprimés sont réellement pris en compte.
Okay.
Parce que moi, je veux une formation en anglais.
Oui.
Est-ce que si on me propose réellement une formation en anglais? Ça, c'est un. Deuxièmement, on me fait une formation à chaud, une évaluation à chaud. Ensuite, une évaluation après 6 mois. Et dans la pratique également, si je fais une formation en anglais pour pouvoir échanger, par exemple, avec des clients, donc mon responsable ou l'entreprise a la possibilité d'évaluer donc cette compétence pour voir réellement est-ce que M. Touré a progressé, est-ce que cette formation a été utile, est-ce qu'il arrive à interagir donc avec les clients.
Ok, d'accord. Mais c'est dans le cas où, par exemple, on fait une évaluation qu'on voit que la formation n'a pas eu l'objectif, n'a pas été l'objectif qu'on veut. C'est-à-dire, dans ce cas, c'est quoi? Est-ce qu'on reprogramme d'autres formations? Mais comment est-ce que la plupart de ça se passe?
Bon, on essaie d'identifier. Est-ce que c'est le formé? Est-ce que c'est l'employé? Est-ce que c'est le formateur?
Okay.
Parce qu'il y a souvent aussi, on fait des mauvais choix. On va choisir un mauvais formateur. Un formateur qui n'est pas adapté à la formation.
Ouais.
Donc tout ça, l'évaluation à chaud permet de déterminer tout cela. Parce que l'évaluation à chaud peut être accompagné d'un exercice de notation où on note à la fois l'employé lui-même, il s'auto-évalue et il évalue le formateur. Le formateur lui-même, il s'auto-évalue et il évalue le formé. Comme je l'ai dit, quand on vient fraîchement d'une formation, l'entreprise observe quel est le niveau de progression de l'employé. On peut se rendre compte très facilement.
Suite.
Et comme tu l'as dit, bon, il y a plusieurs solutions. On évalue, on essaie de voir est-ce que c'est l'employé qui n'a pas été à la hauteur. Là, on peut essayer de peut-être lui donner une deuxième chance. Si c'est le formateur qui est un prestataire, là, on change complètement le prestataire.
C'est plus facile de
changer de prestataire.
D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Touré. Nous allons passer maintenant à la question de la... Ok, donc, M. Touré, la question de la semaine vous est adressée.
Très bien.
La personne dit, je suis chargé de communication dans une société de la place. Je souhaite me reconvertir dans le domaine de l'informatique. Est-il possible de bénéficier d'une formation financée par ma société, sachant que je ne volue pas dans ce domaine?
Bon, tout dépend de... Est-ce que le nouveau poste qu'il va occuper, est-ce que ça fait partie de la stratégie de l'entreprise?
D'accord.
Est-ce que c'est un poste qui est prévu et qui est stratégique pour l'entreprise? Si c'est un poste qui est stratégique pour l'entreprise et qu'il a été identifié comme la personne qui est en mesure d'occuper ce poste, moi, en tant qu'employeur, je vais l'accompagner à acquérir cette formation. Et comme je l'ai dit, dans ce cadre-là, on signe une clause.
Okay,
parce que
d'accord.
Je ne peux pas également prendre le risque d'aller le former pour une réconversion. Et dès qu'il sent qu'il est en mesure de faire ce métier, Bon, comme les contrats de travail, on peut démissionner à tout moment, il peut prendre l'initiative de démissionner après cette formation. Moi-même, en tant qu'employeur, en tant que responsable des ressources humaines, je ne veux pas prendre le risque, donc je vais toujours accompagner. Donc la reconversion, elle est toujours possible. Je t'ai parlé d'un système de rotation. Ces systèmes de rotation, moi, je l'ai, dans l'exercice de ma fonction, j'ai eu à initier ces systèmes de rotation, et il s'est trouvé qu'il y a des employés qui étaient plus performants dans un autre poste que leur poste actuel. Donc là, on fait juste donc des clauses où on fait des avenants à des contrats de travail pour permettre à la personne vraiment d'occuper, parce que le meilleur travail, c'est le travail qu'on aime.
C'est ça.
Donc si c'est un travail qu'il aime, il veut se reconvertir, c'est possible que l'entreprise finance, mais derrière, il y a beaucoup de mécanismes à régler d'abord avant d'accorder.
D'accord. Merci beaucoup, M. Touré, pour votre réponse.
Merci.
Nous allons passer maintenant à l'instant Malibara avec Aissata Keïta. Bonjour Aissata.
Bonjour Sandrine.
Tu vas bien?
Je vais très bien. Et toi?
Je vais bien, merci. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi dans l'instant Malibara?
Alors aujourd'hui, comme instant Malibara, nous allons vous parler de comment développer son mental au travail. Pour cela, la première des astuces, faire un bilan. Dès le début, il est important pour vous de faire une analyse complète de votre propre personne, en tenant compte de vos valeurs, de vos réussites, de vos qualités et de vos échecs passés. Deuxième astuce pour le thème de la semaine, être bienveillant envers soi-même. Comme tout être humain, vous avez le droit d'être imparfait, mais également de commettre des erreurs. Donc, ne vous blâmez pas pour cela. Ayez de la bienveillance à votre égard, vous permettra de renforcer votre mental. De cette manière, vous aurez moins de difficultés à vous relever en cas de défi. Troisième astuce pour le thème de la semaine, s'entourer de bonnes personnes. Ne vous laissez pas affaiblir par des personnes positives ou négatives. Entourez-vous de bonnes personnes, la positivité est très contagieuse, elle motive et elle inspire. S'entourer de bonnes personnes ou encore de personnes positives crée un environnement de travail qui favorise la confiance en soi et puis l'innovation. Quatrième astuce pour le thème de la semaine, ne pas se comparer aux autres. Vous comparer aux autres peut créer un sentiment d'infériorité à leur égard. Vous pouvez sentir que certaines personnes sont meilleures que vous sur certains points. Certes, cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas à la hauteur. Chaque individu est unique compte tenu de son parcours, de ses forces et de ses faiblesses. Dernière astuce pour le thème de la semaine, occupez votre mental. En dehors des heures de travail, il est important pour vous de prévoir des activités extra-professionnelles, ce qui va vous permettre de refouler au plus les idées négatives. Vous pouvez opter pour la lecture, le sport, la gymnastique ou encore d'autres activités qui vous permettront de relaxer. Ceci met fin à notre rubrique de la semaine. On se dit très bientôt pour un autre instant Malibara.
Merci beaucoup Aissata.
Merci Sandrine.
Monsieur Touré, je reviens vers vous.
D'accord.
Je pense que on a parlé énormément de la formation professionnelle. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Je ne sais pas si vous avez un mot de fin avant de pouvoir finir.
Oui, un mot de fin, c'est à l'endroit des employeurs. Comme je l'ai dit, l'humain, c'est le capital le plus important. Donc, il faut former le personnel, la formation. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde très changeant avec les nouvelles technologies. Donc, il faut former. Il y a aussi un message à l'endroit des employés. L'entreprise ne peut pas tout donner. Donc aujourd'hui, on a plusieurs sites, on a une connexion Internet et tout ça. Chacun d'entre nous également peut faire son auto-formation pour pouvoir évoluer, que ce soit au sein de sa propre entreprise. Et en cas de reconversion également, il y a des formations complémentaires qu'on peut suivre pour pouvoir faire facilement sa reconversion. J'ajouterai par rapport au mental, c'est au niveau du travail, il faut... surtout côtoyer les bonnes personnes, les personnes positives, que ce soit dans le milieu du travail ou en dehors du milieu du travail, c'est ce qui permettra de développer un mental très fort. Et le département des ressources humaines, généralement, est là pour pouvoir gérer ce cas de figure. On peut s'adresser également, avoir confiance au département des ressources humaines, avec qui on peut échanger pour pouvoir souvent se retrouver quand on a vraiment mal.
D'accord. Merci beaucoup, M. Touré.
Merci
beaucoup pour tout ce que vous venez de dire, vos propos.
Merci.
Merci pour les conseils aussi que vous venez de donner.
Merci.
Et on espère qu'on vous aura une autre fois sur le plateau de Mag Emploi pour parler d'un autre sujet.
Toujours disponible.
Merci beaucoup pour votre disponibilité.
Merci.
Merci Aissata.
Merci
d'avoir aimé cette chronique.
C'est un plaisir.
On se retrouvera la semaine prochaine.
Inch'Allah.
Merci à nos téléspectateurs, vous qui nous suivez chaque mercredi à partir de 20h. N'oubliez surtout pas de suivre Mag Emploi, votre émission qui vous permet de pouvoir obtenir toutes les astuces en ce qui concerne l'emploi et tout. Donc, nous nous retrouverons la semaine prochaine sur de Liberty TV News. D'ici là, portez-vous bien.
Merci.